Et il est 14h10 à Paris, une heure de moins en temps universel, et 8h10 à Port-au-Prince. C'est l'heure de retrouver le journal d'Haïti et des Amériques avec Pauline Glaise. Bonjour Pauline.
Bonjour Andréane, bonjour à tous. La présidentielle au Venezuela est reportée au 20 mai, une date qui est le résultat d'un accord entre le gouvernement et un adversaire de Nicolas Maduro. Analyse dans la revue de presse de Stéphanie Schuller. Bonjour Stéphanie.
Bonjour Pauline, bonjour à tous.
On s'intéressera aussi à la présidentielle au Brésil, prévue elle pour octobre. Sans être encore officiellement candidat, un député semble déjà tirer son épingle du jeu dans les sondages. Jair Bolsonaro est considéré comme le Donald Trump du Brésil. Et puis en Haïti, le gouvernement ne décolère pas et accuse la mini-juste d'ingérence politique. Le dossier d'Amélie Baron dans quelques minutes. Le calendrier électoral, une nouvelle fois modifié donc au Venezuela, prévu pour la fin de l'année. La présidentielle avait été avancée au 22 avril. Le scrutin devrait finalement avoir lieu le 20 mai. Cette nouvelle date, c'est le fruit d'un accord signé par des représentants de l'actuel président Nicolas Maduro et de celui qui fait figure de principal adversaire, Henry Falcon. Ses soutiens disent avoir obtenu des garanties électorales et pour Felipe Mujica, le secrétaire général du MAS, elles seront suffisantes pour permettre une présidentielle libre. Écoutez-le.
Les conditions sont évidemment meilleures que celles que nous avions jusqu'à maintenant. Le simple fait de modifier la date de la présidentielle signifie que nous aurons désormais une campagne électorale qui durera 3 mois. L'utilisation des médias se fera de manière différente. Le fait qu'on puisse élire des parlements régionaux et les maires, dont les mandats étaient arrivés à terme, est également un élément important, tout comme la présence des observateurs internationaux lors de ces scrutins. Ces décisions n'étaient pas attendues, mais elles sont intervenues. Et c'est un signal. Les choses peuvent être différentes. Dans ce cas, nous avons démontré qu'au Venezuela, il était possible de trouver des issues. Et ceci sous la direction d'Henry Falcon, pour permettre un vrai changement politique, avec un nouveau gouvernement, un nouveau président, et de nouveaux espaces qui pourront faire naître une nouvelle opposition.
Felipe Mujica répondait à Raphaël Moran. Cette annonce du changement du calendrier est bien sûr à la une de votre revue de presse, Stéphanie Schuller. Alors, quelle analyse en font les éditorialistes ce matin?
Eh bien, si Henry Falcon participe à cette élection, c'est parce qu'il est convaincu que la majorité des Vénézuéliens veulent voter et il croit même en une véritable avalanche de votes contre le gouvernement, explique le site internet Efecto Cocuyo, qui poursuit, avec un ton presque biblique, la prophétie d'un vote massif contre le régime n'est pas nouvelle. Elle fait son apparition avant chaque scrutin. C'est la version modérée du soulèvement militaire ou encore de l'illusion d'un coup d'État qui apporterait un retour à l'ordre constitutionnel au Venezuela. Mais c'est oublier que l'organisation, le déroulement et le résultat des élections sont entièrement contrôlés par le chavisme. Mais de facto, constate laconiquement l'éditorialiste de La Verdad, nous n'avons pas d'autre arme pour affronter ce régime corrompu que notre vote. Même si nous avons peur que ce vote soit manipulé par le gouvernement qui a à ses bottes les principales institutions du pays.
Et une chose semble évidente dans les commentaires des journaux vénézuéliens. Aujourd'hui, la participation d'Henry Falcon à la présidentielle donne le coup de grâce à la coalition d'opposition qui avait appelé au boycott du scrutin.
Oui, est-ce que ce chaviste dissident qui fut ces dernières années membre de la MUD est finalement l'allié ou l'adversaire de Nicolas Maduro, s'interroge le Diario de los Andes. Ne nous voilions pas la face, répond Talcual. Pour rendre crédible cette élection présidentielle, le régime avait besoin d'un candidat capable de représenter un contrepoids au président sortant Nicolas Maduro. Mais quand les lumières des projecteurs se sont éteintes hier et que les caméras avaient disparu, le chef de l'État et son soi-disant adversaire se sont serrés la main et très émus, se sont mutuellement félicités pour le spectacle grandiose qu'ils venaient de produire pour démontrer l'esprit démocratique de cette dictature. Termine le quotidien. El Nacional n'arrive plus à cacher son amertume. Ce qui a détruit l'opposition, c'est sa carence en densité morale, son absence de force, son manque de leadership capable d'imposer une ligne politique incontestée et d'obtenir le soutien de la société civile, écrit l'éditorialiste. Avant de conclure, à la place, la MUD a permis que se développe en son sein une sorte de chavisme light, en la personne d'Henry Falcon, qui s'est porté candidat à la présidentielle et qui servira désormais de punching ball au boucher Maduro.
Élections ont eu également en Colombie. Et hier, le candidat de la FARC, le parti politique issu de la guérilla du même nom, a été hospitalisé d'urgence pour un nouveau problème cardiaque. Rodrigo Londoño, alias Timochenko, a fait un infarctus. Son état est stable, selon les médecins, mais cela pourrait porter un nouveau coup à une campagne déjà difficile. Marie-Ève de Teuf.
Une nouvelle façon de faire de la politique, c'est ce que promet l'affiche du candidat Timo, comme l'appellent ses camarades. Mercredi, en fin d'après-midi, l'ex-chef guérillero donnait une conférence de presse à Bogota, la première depuis la suspension de sa campagne présidentielle début février. Par deux fois agressé par des groupes de militants de droite en colère, le candidat de la FARC avait en effet décidé de suspendre ses apparitions en public. Mais Timochenko a indiqué mercredi qu'il entendait maintenir sa candidature et aller jusqu'au bout, malgré les difficultés. Agression, manque d'argent, mauvaise volonté des pouvoirs publics, hostilité des médias, elles sont nombreuses à en croire les militants de la FARC. Timochenko avait lancé un SOS à la communauté internationale. « Ce qui est en jeu, ce n'est pas ma candidature, c'est le processus de paix lui-même », avait déclaré en substance le candidat de la FARC qui arrive bon dernier dans les sondages. Timochenko n'avait pas évoqué ses problèmes de santé. Il pourrait compliquer encore la transition des FARC à la démocratie. Marie-Ève de Teuf, Bogota, RFI.
Et au Brésil, la présidentielle se sera en octobre. Pour l'instant, le favori, c'est Lula, mais l'ancien président a été condamné à 9 ans de prison dans une affaire de corruption. Et en embuscade derrière lui, dans les sondages, Jair Bolsonaro, un député déjà considéré comme le Trump du Brésil. Il est notamment connu pour ses sorties misogynes, racistes et homophobes qui lui valent souvent d'être classé à l'extrême droite de l'échiquier politique. Et la formule semble marcher, mais qui sont ses électeurs? Élément de réponse avec Claude. Et magistère.
À 62 ans, il en est à son 7e mandat de député. Jair Bolsonaro n'est pas encore officiellement candidat, mais il est déjà en campagne. Certaines de ses déclarations polémiques ont défrayé la chronique. Faisant référence au physique d'une députée de gauche, il a affirmé qu'elle ne méritait pas d'être violée et qu'il préférerait voir son fils tué dans un accident plutôt qu'homosexuel. Malgré ses positions parfois controversées, Jair Bolsonaro séduit. Marcelo Reis est un militant anti-Lula très actif. Il fait partie des convaincus.
C'est un homme sérieux, il n'est pas là pour rigoler. Il tient bien son rôle et c'est quelqu'un qui a ses propres opinions. Donc vraiment, je crois qu'aujourd'hui, parmi tous ceux qui se sont déjà lancés dans la course à la présidence de la République, Bolsonaro est le plus préparé de tous et c'est celui qui peut vraiment améliorer de manière significative la situation de notre pays. Et c'est ce que le peuple veut.
Si la justice devait empêcher l'ancien président Lula de se présenter à l'élection présidentielle à cause des affaires de corruption, le député d'extrême droite recueillerait 18% des intentions de vote au premier tour, selon les sondages. Il arriverait donc en première position devant la candidate écologiste Marina Silva. Contrairement à Trump, dont l'électorat est plutôt masculin, blanc, peu diplômé, âgé de plus de 45 ans et habitant en milieu rural, Bolsonaro attire, lui, des électeurs de toute classe sociale, mais qui partagent certaines caractéristiques. C'est ce qu'explique Lucio Reno, professeur de sciences politiques à l'Université de Brasilia.
Ils ont en commun une certaine nostalgie de l'ordre qui, selon eux, régnait sous la dictature militaire. On perçoit aussi son électeur comme quelqu'un qui a peur et ne se sent pas en sécurité. Il attire aussi un public plus conservateur socialement. En général, il est plutôt soutenu par des hommes urbains au niveau de scolarité élevé ou non. Il y a aussi une grande partie de son électorat qui est jeune. C'est assez significatif.
Les électeurs de Bolsonaro ont aussi en commun une certaine lassitude de la corruption qui gangrène le pays, selon Marcelo.
Aujourd'hui, au Brésil, nous avons besoin d'un chef d'État qui au moins n'ait rien à voir avec ces voleurs, cette forte corruption qui est installée dans notre pays. Et Bolsonaro est en dehors de ça. Il représente la morale que nous n'avons pas dans notre pays.
Car pour l'instant, le nom de Bolsonaro n'a été cité dans aucune affaire de corruption. Mais au-delà d'un rejet du système politique en place, les Brésiliens sont aussi nombreux à adhérer à ses idées très conservatrices. Il fait l'apologie des années de plomb de la dictature militaire, se déclare partisan du port d'armes et de la réhabilitation de la peine de mort. Au Brésil, le vote pour Bolsonaro est surtout un vote d'adhésion, selon Lucio Reno.
C'est plus une question d'idéologie. Ils veulent un État plus investi dans le combat combat contre le crime et la corruption. Et comme Bolsonaro vient de l'armée et qu'il est dans la politique depuis longtemps et qu'il n'a jamais été cité dans un scandale de corruption, il apparaît comme quelqu'un de compétent pour se confronter à ces deux grands problèmes aujourd'hui au Brésil. De plus, il y a aussi cette question de conservatisme social concernant par exemple les droits des LGBT, auxquels il s'oppose clairement. Donc, il attire aussi un électorat religieux.
Pas étonnant donc que Bolsonaro soit de plus en plus haut dans les sondages, car au Brésil, le conservatisme grandit. Selon un sondage publié en 2016 par l'Institut brésilien d'opinion publique et de statistiques, 54% de la population brésilienne a atteint ce que l'Institut définit comme un haut degré de conservatisme.
Dossier signé Chloé Magister. Je me retourne vers vous, Stéphanie Schuller, pour la suite de votre revue de presse. On part au Pérou, où le fils cadet de l'ancien dictateur Alberto Fujimori quitte définitivement le parti Force Populaire, qui est pourtant dirigé par sa sœur.
Tout à fait, Keiko Fujimori a annoncé son départ hier, un jour seulement, après les déclarations de l'ex-représentant d'Odebrecht au Pérou, révélant que l'entreprise brésilienne avait financé une partie de la campagne présidentielle de sa sœur Keiko Fujimori, rapporte El Comercio, qui poursuit. Par conséquent, le fils cadet de l'ancien dictateur estime devoir quitter le parti Force Populaire, dépourvu, selon lui, de toute autorité morale.
Et en Haïti, les écoliers étaient encore une fois dans les rues hier.
Ils réclament des professeurs, des cours, une vie scolaire normale, explique Franz Duval du Nouvelliste. Quitter chez soi, parcourir parfois des kilomètres pour se retrouver à se tourner les pouces dans une salle de classe n'est en effet pas chose acceptable, renchérit Gary Victor du quotidien Le National. Les deux éditorialistes critiquent aujourd'hui sévèrement aussi bien la corruption que le gaspillage de fonds publics. Le Nouvelliste parle de gangs organisés qui soutirent sans fin les fonds publics sans dispenser en retour la meilleure des formations aux élèves dont ils ont la charge. Le National n'y va pas par quatre chemins et fustige ce hold-up effectué par nos gouvernements successifs sur les ressources du pays siphonnées autre part, là où elles ne vont servir qu'à des intérêts particuliers. Et le journal de conclure, si on coupait le robinet partout où il ne s'agit que de permettre à des particuliers de s'enrichir, on trouverait certainement de quoi ramener à la normale ce pays.
Merci Stéphanie Schuller pour votre revue de presse. L'actualité en Haïti également dominée par la colère du gouvernement contre la mini-juste. En cause, la note de presse de la chef de mission qui saluait la nomination de juge pour l'instruction du dossier de corruption Petro-Caribé. Depuis mardi, déjà, Haïti a rappelé son ambassadeur auprès des Nations Unies à New York. Mercredi matin, le président Jovenel Moïse a expliqué qu'il ferait tout pour que l'image d'Haïti soit respectée à l'étranger. Et puis hier, Jacques-Guy Lafrontant, le premier ministre, a déploré une ingérence politique à Port-au-Prince, Amélie Baron.
En publiant le court communiqué de presse dimanche, Suzanne Page ne pensait pas s'attirer de telles foudres. La chef de la MINUJUST voulait saluer la nomination des juges d'instruction tout en soulignant le retard dans le traitement d'autres dossiers, notamment ceux portant sur les allégations de violation de droits humains par la police nationale. Mais les conséquences de sa déclaration sont lourdes. D'abord donc l'ambassadeur haïtien auprès de l'ONU a été rappelé et d'autre part le président Jovenel Moïse a annulé sa visite à une réunion de haut rang à New York organisée par les Nations Unies sur la question du choléra. Une annulation que justifie le premier ministre Jacques-Guy Lafontant au nom de la fierté et de la souveraineté haïtienne.
Effectivement, t'es une réunion qui t'es gagné pour fête. En ce qui concerne...
Effectivement, une réunion aurait dû se tenir en ce qui concerne le choléra. Je pense que les Haïtiens doivent être fiers aujourd'hui d'avoir cette équipe d'hommes et de femmes à leur tête, parce qu'Haïti n'est ni une savane, ni un moulin, mais un pays souverain. L'argent du choléra n'est pas un cadeau, c'est une dette, parce que ce n'est pas nous qui avons introduit le choléra en Haïti. De 2010 à nos jours, rien n'a été fait, mais ils vont devoir agir, et dans la discipline. Oui, nous sommes pour le support, mais pas n'importe comment.
Pas n'importe quoi.
Le Premier ministre exige qu'Haïti soit donc mieux traité par le système des Nations Unies, car aux yeux du gouvernement, la note de presse de la chef de la MINUJUST est un affront et son commentaire sur le dossier Petro-Caribé serait donc un signe d'ingérence dans les affaires politiques du pays.
Une organisation internationale ne peut pas penser venir en Haïti et faire des déclarations partisanes parce que c'est un dossier qui est hautement et éminemment politique. Dites-moi si une organisation haïtienne pourrait aller aux États-Unis et faire n'importe quelle déclaration face au gouvernement américain. Est-ce qu'une organisation haïtienne peut aller en France et faire n'importe quelle déclaration face au gouvernement français? Non, ça n'est pas faisable. Eh bien, au pays de Dessalines, Pétion et Christophe, ça n'est pas possible non plus. Des moyens diplomatiques existent pour faire certaines choses.
Il y a des moyens diplomatiques pour une série de bas effets.
Convoquer les héros de l'indépendance, en appeler à la fierté nationale, le Premier ministre affiche une ligne dure. Les critiques ne manquent pas de faire remarquer que le gouvernement n'avait pas fait preuve de la même fermeté face au shithole, au pays de merde que Donald Trump aurait utilisé pour qualifier Haïti. Cette réaction face à la déclaration de la MINUSUST démontre une nouvelle fois combien la gestion des fonds pétro-caribés constitue un dossier très sensible pour le gouvernement. Amélie Baron, Port-au-Prince, RFI.
Et aux États-Unis, Donald Trump assume sa promesse d'augmenter les taxes douanières de 25% pour l'acier et de 10% pour l'aluminium. L'Union européenne a promis de réagir fermement. Le Canada dénonce des mesures inacceptables. Mais ce matin, le président américain estime sur Twitter que les guerres commerciales sont bonnes et faciles à gagner. Fin de citation. Le journal de l'Outre-mer avec la première. Bonjour Benoît Ferrand.
Bonjour Pauline.
Benoît, le quota supplémentaire de rhum accordé aux Antilles par l'Union européenne sème la zizanie entre la Martinique et la Guadeloupe.
Oui, c'est un bras de fer discret, mais un bras de fer tout de même, car les producteurs guadeloupéens de rhum craignent manifestement d'être les dindons de la farce en visite actuellement en Guadeloupe. La ministre des Outre-mer, Annick Girardin, est restée très prudente et très diplomate sur ce sujet délicat, mais le député de la Guadeloupe, Max Mathiasin, a tenu, lui, à mettre les points sur les i et les pieds dans le plat.
Les producteurs martiniquais font une pression extraordinaire pour maintenir leurs mêmes proportions. Par contre, nous disons qu'il y a un rééquilibrage à faire en faveur de la Guadeloupe. Nous nous sommes exprimés non seulement au cours de réunion, mais par un courrier co-signé que nous avons adressé à la ministre et au gouvernement. Par conséquent, nous n'avons pas lieu de penser que la Guadeloupe pourrait être traitée, je dirais, de manière inéquitable dans ce dossier-là. Nous attendons l'équité. Nous n'attendons pas forcément l'égalité, mais que nous soyons traités avec équité et que nous tiennent compte de la des possibilités de production de la Guadeloupe qui est plus grande et qui est exportatrice vers la Martinique de Cannes.
Quelques jours avant que Annick Girardin ne s'y rende, le nouveau recteur de la Guadeloupe s'est quant à lui rendu hier sur l'île de Saint-Martin, car il est également recteur de Saint-Martin et de Saint-Barth. Il est allé à la rencontre d'un système éducatif et évidemment toujours très perturbé après le passage de l'ouragan Irma. Mostafa Fourard est au micro de Steve Prudent.
Moi, ce que je constate, c'est que sur l'ensemble des établissements, on en a encore 4 écoles qui ne sont pas ouvertes, mais on a réussi à répartir les élèves de 2 écoles sur les autres écoles. Et puis, on a une opération qui n'est pas satisfaisante, de tournante entre 2 écoles et puis des écoles qui reçoivent les enfants pour l'une le matin, pour l'autre l'après-midi. C'est des solutions provisoires, bien évidemment. Et j'espère qu'on va pouvoir revenir à un régime normal pour la réussite de nos élèves et les conditions favorables d'exercice des métiers de nos enseignants.
Vous signalez encore, toujours en Guadeloupe d'ailleurs, le début ce soir du Festival international de musique Saint-Georges qui rendra hommage au compositeur classique Joseph de Bologne de Saint-Georges, dit le chevalier de Saint-Georges. Né en Guadeloupe d'un père d'origine hollandaise et d'une mère esclave et mort à Paris en 1799. 3 jours de festival donc pour rendre hommage à ce compositeur classique. C'est jusqu'au 4 mars. Le premier concert c'est ce soir à Bastille. Esther, bon après-midi. Pauline, bon week-end. À lundi.
Merci Benoît Ferrand et c'est bien noté sur nos agendas. Ainsi s'achève ce journal d'Haïti et des Amériques. Jonathan Brady était aux manettes. Lundi, vous retrouverez Anne Verdaguet. En attendant, vous pouvez retrouver ce journal sur notre site internet www.rfi.fr et sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. En attendant, bon week-end à vous.
International. Sophie Malibaud.
Notre invitée Chiara Corazza dirige le Forum des femmes pour l'économie et la société, une organisation qui défend la place des femmes dans tous les organes de pouvoir partout dans le monde. Avec elle, nous parlerons du plafond de verre, des femmes en affaires, des femmes en politique et de la campagne anti-harcèlement partie d'Hollywood.
International avec Sophie Malibaud, en partenariat avec TV5 Monde et le journal Le Monde.
Dimanche, à partir de 11h10 TU.
RFI. 1918.
Après 4 ans de guerre, l'armée française a besoin de nouveaux soldats et fait appel aux forces vives de son empire colonial. Mais comment la France peut-elle encore convaincre l'Afrique de donner ses fils ? Recruter pacifiquement plus de 50 000 tirailleurs, c'est le défi lancé par Clémenceau à Blaise Diagne, le premier député africain de l'histoire.
1918, mission Blaise Diagne, un web documentaire proposé par Valérie Nivelon en partenariat avec les Archives nationales et la mission du centenaire 14-18. À découvrir sur RFI.fr.